Donc c'est la quatrième, cinquième séance, je crois. Cinquième, oui. Cinquième séance, bon. Rapidement, je vais prendre un peu pour voir où on en est. Vous vous rappelez donc de l'enfant Joseph qui vit son enfance dans le sentiment d'être que sa famille est humiliée et que sa famille vit dans la honte. Lui-même le perçoit très profondément et ça aura des influences sur toute son existence. Donc c'est l'importance de l'enfance, comme pour chacun de nous d'ailleurs, mais voilà, plus ou moins. Et en tout cas, chacun vit les événements d'une manière différente. Et Joseph vit ces événements à la rue Saint-Jacques à Angers, et aussi sans doute toutes les répercussions de 2 années passées au séminaire d'Angers, transformé en prison, en camp de réfugiés, de prisonniers politiques pendant la guerre, alors qu'il avait, il est né hein, dans ce lieu-là. Mais même s'il n'en a pas eu conscience, on sait bien que même les premiers mois, premières années peuvent influencer toute une vie. En tout cas, il n'a pas évidemment gardé souvenir de ce temps pendant la guerre. Il est né en 1917, hein, mais donc il a eu toute l'année 17 et toute l'année 18 dans ce séminaire transformé en prison. Mais ensuite, rue Saint-Jacques, ça a été, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça a été une vie de grande précarité à une époque qu'il ne faut évidemment pas comparer à l'époque d'aujourd'hui. On ne peut pas imaginer l'enfance du père Joseph comme l'enfance d'une famille très pauvre aujourd'hui, simplement parce que il n'y a pas les aides de l'État qu'il y a aujourd'hui. Les personnes très pauvres à l'époque vivent de manière plus misérable que les familles très pauvres d'aujourd'hui. Maintenant, on ne peut pas comparer non plus, parce que sans doute, bien que je n'en sache rien, mais sans doute, la solidarité entre voisins était-elle, sinon plus respectueuse, du moins peut-être plus forte, précisément en raison du manque d'aide sociale de la part de l'État ou de grandes associations. Il n'y a pas d'associations comme le Secours catholique, le Secours populaire, tout ça c'est créé après, Emmaüs, mais il y a évidemment les œuvres d'Église, et notamment les religieuses, qui ont un rôle extrêmement fort, à la fois dans leur couvent, mais aussi dans les hôpitaux et dans les maisons d'accueil. Donc les religieuses, notamment, ont une grosse influence à cette époque-là dans les milieux les plus pauvres de France. Donc cette enfance. Et puis Joseph passe le certificat d'études, il a 13 ans. Il va faire un apprentissage de pâtissier à Angers pendant 2 ans, puis il part à Nantes, où là, il trouve un emploi de pâtissier, et c'est là qu'il rencontre un copain qui l'embarque dans la JOC, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne, où il ne restera d'ailleurs pas très longtemps, en fait. En fait, les témoignages qu'on a pu recueillir montrent que il n'est pas allé à beaucoup de réunions, à la vérité. Et suffisamment pour que cette expérience de jeunesse ouvrière chrétienne, cette rencontre avec des jeunes chrétiens engagés et proches des jeunes parmi les plus précaires, des jeunes ouvriers, mais qui avaient la vie dure, parce que travaillant des heures et des heures par jour, hein, on n'en est pas aux 35 heures à cette époque-là, on n'est pas encore même en 1936, hein, on est avant 1936, donc on est avant les congés payés, avant tout ça, et les jeunes sont tout simplement exploités, et donc souffrent de fatigue, mais aussi d'humiliation. Et Joseph rencontre ces jeunes, il les rencontre notamment sur les quais du port de Nantes, où sont là tous les jeunes qui soit passent leur temps parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire, soit passent leur temps parce que à la fin du travail, il faut bien se détendre. Et voilà que Joseph, au contact de ces jeunes et du prêtre aumônier de ce groupe de Joc, le père Gerbeau, voilà que Joseph se dit que ben, peut-être il lui faut devenir prêtre. Au fond, il y a un peu le lien, la relation, la conjonction, la rencontre entre la présence aux jeunes les plus pauvres, parmi les plus pauvres, et puis une découverte de Jésus-Christ. Il aurait pu, découvrant Jésus-Christ, continuer sa route tranquillement comme pâtissier. Il aurait pu aussi, découvrant Jésus-Christ, s'enfermer dans un monastère. Pourquoi pas, et c'est bien de s'enfermer dans un monastère. Il aurait pu simplement se faire prêtre et être curé de paroisse n'importe où, et là où son évêque l'envoie, à Ternier, puis à Duisel, comme ça lui est d'ailleurs arrivé. Mais là, en fait, il se fait prêtre pour vivre comme Jésus a vécu, c'est-à-dire proche des pauvres. Et le lien entre les très pauvres et Jésus-Christ, le père Joseph dit lui-même, il fallait d'emblée faire la jonction entre le pauvre et Jésus-Christ. C'est page 19, les pauvres sont l'Église. D'emblée, dit-il, il faut faire. D'emblée, ça veut dire sans prendre trop de temps pour réfléchir. D'emblée, c'est comme quelque chose, comme une évidence. Comme une évidence, il faut faire la jonction audacieuse. Donc la jonction, hein, c'est il y a deux éléments qui sont séparés et il faut les faire se rejoindre. Et le père Joseph a bien conscience que c'est évident parce qu'il faut le faire d'emblée, mais qu'en même temps c'est pas si évident que ça parce que c'est audacieux. C'est-à-dire que faire la jonction entre Jésus-Christ et les pauvres. Ben, si on écoute le monde tel qu'il pense, tel qu'il pensait à l'époque du père Joseph et tel qu'il pense encore aujourd'hui, c'est les pauvres, c'est un peu au fond les gens qui ne valent pas grand-chose, et puis Jésus-Christ, mais c'est le tout, c'est le saint. Alors comment est-ce que Jésus va être relié aux misérables? Il y a quelque chose là d'incompréhensible. C'est là où c'est audacieux. Mais le père Joseph dit, attention, il faut le faire d'emblée, sans même avoir besoin de réfléchir, parce que c'est cela qu'il est, Jésus. Il est fait esclave. Vous pensez que les pauvres sont des fainéants, mais Jésus a pris cette condition-là. Et Jésus n'était pas fainéant. Les pauvres, pas plus que Jésus, ne sont des fainéants. Ce sont des souffrants, hommes de douleur, dit le père Joseph un peu plus loin. Donc, d'emblée, il faut faire la jonction audacieuse, je cite le père Joseph, entre le plus pauvre et Jésus-Christ, deux points dans le texte du père Joseph, et écoutez bien, ils ne font qu'un. Ils ne font qu'un. C'est pas le pauvre d'un côté, Jésus-Christ de l'autre, qui se regarde en chien de faïence, voir Jésus-Christ, le plus pauvre, qui se donne la main. Non, ils se réunissent, une jonction, ils se mettent ensemble, l'un avec l'autre, plus que l'un avec l'autre, l'un et l'autre ne font qu'un. Ne font qu'un. Le plus pauvre montre Jésus-Christ, et Jésus-Christ est le plus pauvre, EST. Il est le plus pauvre. Évidemment, il faut méditer là-dessus, parce que c'est évident, semble dire le père Joseph, mais il a bien compris que c'était pas si évident que ça, c'est pour ça qu'il emploie l'adjectif audacieux, et on voit bien que on peut le dire comme ça rapidement, mais qu'ensuite, pour le vivre, c'est moins facile. Faire la jonction audacieuse entre le plus pauvre et Jésus-Christ, ils ne font qu'un. Ils ne font qu'un. C'est exactement ce que, je ne cite plus le Père Joseph là, c'est exactement ce que dit l'Évangile, dans l'Évangile de Matthieu. Jésus raconte une parabole, c'est au chapitre 25. Il raconte une parabole, ce sera le jour du jugement dernier. Il y a le roi qui est le Christ, qui rassemble toutes les brebis, tous les boucs, et il met les uns d'un côté, à droite, les autres de l'autre côté, à gauche, et il dit aux uns, venez, les bénis de mon Père, entrez dans le royaume. Pour quelle raison? Parce que vous avez donné à manger à celui qui a faim, vêtu celui qui est nu, été visité celui qui était en prison, soigné celui qui était malade. Ce que vous avez fait, au verset 40 du chapitre 25, ce que vous avez fait, au plus petit d'entre les miens, au plus pauvre, au plus précaire, au plus humilié, au plus enfermé, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et on trouve quelque chose exactement de la même manière lorsque Paul, l'apôtre Paul, rappelez que Paul, avant d'être apôtre de Jésus-Christ, apôtre, il n'a jamais connu Jésus, mais envoyé par Jésus-Christ, qu'il a perçu intérieurement une sorte d'appel très fort, lorsque Paul persécute les chrétiens, c'est-à-dire concrètement qu'il les envoie en prison, voire même qu'il les fait tuer, bref, Paul n'est pas un bon bonhomme, c'est quelqu'un de cruel, mais cruel parce qu'il croit ainsi servir Dieu. Et donc il attaque les chrétiens, les chrétiens qui ne s'appellent pas encore chrétiens, mais les disciples de Jésus. Il attaque les disciples de Jésus parce qu'il croit qu'ils vont contre le vrai Dieu. Et puis tout d'un coup, il est sur le chemin de Damas, l'actuelle capitale de la Syrie. Il est sur le chemin de Damas et il s'apprête à aller dans une communauté chrétienne pour faire dégager tous ces gens-là qui croient en Jésus. Et tout d'un coup, il y a une grande lumière, il tombe par terre, il en devient aveugle, tellement la lumière est forte. Il lui faudra 3 jours pour que les écailles, dit le texte des Actes des Apôtres, lui tombent des yeux. On trouve ça au chapitre 9 des Actes des Apôtres. Et alors, il y a une grande lumière et il entend une voix, ou plus exactement, je me trompe, après la lumière, Paul tout de suite se rend compte que c'est pas le soleil, c'est quelque chose d'autre. Et il dit, qui es-tu, Seigneur? Il se rend compte que c'est Dieu qui lui parle, que Dieu qui se manifeste. Qui es-tu, Seigneur? Et la réponse ne tarde pas. Je suis Jésus que tu persécutes. Autrement dit, entre les persécutés et Jésus, ils ne font qu'un. Je suis Jésus que tu persécutes. Mais Paul ne persécutait pas Jésus. Jésus était mort, selon Paul. Selon Paul. Oui, selon le Paul d'avant la rencontre. Il était mort sur une croix, point. Puis il y en a qui disent il est ressuscité. Il y en a qui se réunissent ensemble et qui disent on croit en Jésus vivant aujourd'hui. Il persécutait les croyants en Jésus, persécutez pas Jésus, Jésus était enterré. Et voilà que Jésus dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Une identité entre les persécutés, qui sont des gens comme vous et moi qui se réunissent pour prier, et puis Jésus. Le plus pauvre, en l'occurrence là, ceux qui sont persécutés, qui vont être tués dans quelques heures, si Paul arrive jusqu'à Damas, entre le plus pauvre et Jésus, ils ne font qu'un. Ils ne font qu'un. Donc là, il y a quelque chose de très important et qui est sans doute, sûrement, en tout cas tel que le Père Joseph l'exprime, l'expérience fondamentale du Père Joseph dans la volonté, dans son désir ou dans la reconnaissance qu'il est appelé par Dieu pour devenir prêtre de Jésus-Christ. Donc, désir de devenir prêtre. Pas si simple, un apprenti pâtissier, qui a eu le certificat d'études, mais qui n'en sait pas plus que ça. Devenir prêtre, c'est bien, mais il va falloir faire des études, il faut apprendre le latin, le voilà sur les bancs de l'école avec des petits gamins de 12 ans, pour apprendre le latin, qui parvient difficilement à apprendre, il est quasiment le dernier de la classe, alors qu'il a, à l'époque donc 16-17 ans, et évidemment c'est une humiliation supplémentaire, hein, et finalement il part une année chez un vieux prêtre pour apprendre le latin, parce que ça va pas du tout avec ces gamins, vous imaginez, surtout à l'époque, enfin oui, ce grand gaillard, et puis, enfin grand, il n'était pas très grand, mais assez costaud, et avec ses petits gamins, bon, ça va pas du tout. Finalement, il décide de rentrer au séminaire. Le séminaire à l'époque, je vous rappelle ça, mais c'est parce que tout ça est important à réaliser, parce que ça se dépose aussi dans le cœur de quelqu'un, ce qui arrive. Comment est-ce qu'il peut aller au séminaire? C'est parce que une religieuse a parlé à ses parents de ce Joseph qui voulait aller au séminaire, dont la mère n'avait pas le sou, lui non plus, et il pouvait pas se payer le trousseau nécessaire et puis la pension au séminaire. L'église n'avait pas d'argent. Pas parce que quelqu'un veut devenir prêtre qu'on a pour autant de l'argent pour payer ce qu'il faut pour le séminaire. Et du coup, c'est les parents de la sœur Leroux qui paye le séminaire de Joseph, à la condition qu'il n'entre pas au séminaire d'Angers, mais au séminaire de Soissons, puisque les Leroux habitent la région de Soissons. Et c'est comme ça que Père Joseph va aller vers Soissons, mais voilà que la guerre arrive, la guerre de 40, nous sommes en 1939, la guerre arrive, Père Joseph était à ce moment-là déjà au service militaire, il reste sous les drapeaux et il est fait prisonnier. Et il s'évade un mois après, et il rejoint le séminaire de Soissons, mais qui est exilé à Entrammes, près de Laval, en Mayenne, donc dans l'ouest de la France, alors que Soissons est au nord de Paris, et c'est là qu'il va passer quelques années, de 1940 à 1946, à la fin de la guerre, 45-46, et il est ordonné prêtre en 1946 dans la cathédrale de Soissons. Le séminaire est pas très facile pour lui, pas tellement par les études, parce qu'il est avide de découvrir. Joseph est curieux de tout. Il prend bien conscience et il se rend compte qu'il n'a pas appris grand-chose et du coup, il lit beaucoup. Semble-t-il, il travaille beaucoup, mais ce qui lui est pénible, ce sont pas les études. Ce sont ses compagnons. Il s'entend bien avec tout le monde, il n'a pas de querelle avec les autres, mais il se sent différent, non pas tant par la naissance. Bien sûr, il est né d'un milieu plus pauvre que la plupart de ses compagnons. C'est pas tellement sa naissance qui le gêne, c'est plutôt les options. Tous veulent travailler auprès des pauvres, parce qu'à l'époque, les séminaristes et les jeunes prêtres souhaitaient s'enfouir, on va voir un texte tout à l'heure, s'enfouir avec les très pauvres, vivre la vie des gens, des ouvriers, des travailleurs, des travailleurs agricoles, ou bien des petits ouvriers dans l'industrie. Mais Joseph sans cesse dit, mais il y a plus pauvre que cela. C'est vrai, les ouvriers souffrent, mais il y en a qui souffrent encore plus. Parce qu'ils ne sont même pas ouvriers. C'est vrai, les ouvriers sont exploités, mais il y en a qui ne sont même pas exploités. Ce qu'il appellera plus tard les sous-prolétaires. Et donc, ou bien ceux qui sont ouvriers, mais ne sont pas représentés par les syndicats, qui ont à l'époque une influence, une grosse influence. Et donc, il est soucieux de ceux qu'on ne voit pas, et de ceux que ses copains séminaristes ne voient pas, simplement parce qu'ils n'ont pas cette sensibilité-là. Bon, le Père Joseph a assez vite la sensibilité que derrière ceux qu'on voit, il y en a d'autres. Joseph ne les connaît pas, il a cette intuition. Alors, lorsqu'il fait des stages, parce que comme aujourd'hui encore, hein, les séminaristes font des stages, notamment pendant les vacances, et là, il a fait un mois de stage à l'usine Valentine, ce sont les peintures Valentine qui existent encore aujourd'hui, il fait un mois de stage, il fait aussi un mois de stage dans les mines à Seyssel et des mines de charbon, et là, il est avec un co-séminariste, enfin, un de ses copains séminaristes, ils sont tous les deux à Seyssel. Le copain séminariste connaît un peu le contremaître ou le patron de cette mine, et donc Joseph demande à son copain s'il peut lui faire avoir la possibilité de descendre dans la mine. Parce que, évidemment, pendant un stage, on ne fait pas descendre le jeune séminariste qui est là seulement pendant un mois, on ne le fait pas descendre dans la mine. On lui fait trimballer le charbon à la surface, faire des travaux de manutention et autres, mais pas descendre dans la mine. D'abord parce que c'est dangereux, d'autre part c'est totalement inutile. Faire descendre un gars qui va être inefficace, parce que c'est un métier qui s'apprend et c'est un métier qui est dur. En fait, Joseph peut descendre dans la mine et pendant un petit mois ou trois semaines... il va faire ce travail dur qu'il a complètement à apprendre, et dur et pénible parce qu'il n'en a pas l'habitude. C'est différent d'avoir fait un apprentissage de pâtissier et puis d'être dans la mine. Le travail de pâtissier est dur, mais dans la mine, c'est extrêmement dur. Donc, Joseph, là, découvre ce qu'en effet, on ne voit pas. On ne voit pas pourquoi ? Parce que personne ne les voit dans la mine. On les voit éventuellement au café ou dans la rue ou à l'épicerie lorsqu'ils sont sortis de la mine, mais on ne voit pas la souffrance qu'ils vivent dans la mine. Et donc, Joseph est très, très intéressé et impressionné par ce qu'il a vu. De même, chez Valentine, chez le fabricant de peinture, il est intéressé par ceux qui sont au sous-sol de l'usine, qui font des travaux pénibles, plus dur que les autres, avec davantage de produits toxiques, et il est étonné que les syndicats qui travaillent dans les étages et qui essaient de mobiliser les ouvriers ne s'intéressent pas à ceux du sous-sol. Et il note, dans Les pauvres sont l'Église, que il est choqué par ça. Au fond, il se rend compte que les syndicats défendent ceux qui sont les plus forts, qui souffrent bien sûr, qui sont exploités complètement, mais qui sont les plus forts. Et donc là, Joseph dit quelque chose qui n'est pas normal. Pas oublier, il est séminariste, il n'a pas encore une pleine conscience de ce qu'il va faire, même pas du tout, il ne sait pas du tout ce qu'il va faire. Il ne sait pas du tout qu'un jour il va aller au camp de Noisy-le-Grand, qu'il va fonder un mouvement qui s'appellera Thédée Carmonde. Il ne sait rien de tout ça. Il avance pas à pas. Il a donc maintenant, on est en 43, 44. Vous voyez, il est né en 17, 27, 37. Voilà, il a 25 ans, 26 ans, 27 ans. La vie commence pour lui, mais il a ça sans cesse. Et il partage ça, évidemment, avec ses copains séminaristes. Les copains séminaristes, ça va une fois, ça va deux fois. Mais enfin, chaque fois, voilà Joseph qui remet son disque. Et voilà, il y a quand même quelques heures entre la pensée des autres séminaristes et puis la pensée de Joseph. Et donc, le séminariste Joseph, il médite ça dans son cœur, hein, comme il est dit de la Vierge Marie dans le début de l'évangile de Luc. Il médite ça dans son cœur, et puis, un jour peut-être, ça donnera quelque chose. Et voilà en tout cas qu'arrive 1946, il est ordonné, et son évêque l'envoie à Ternier. Là encore, il se rend compte que les choses ne sont pas si simples avec les gens qui sont exploités, qu'il y en a là encore qu'on ne voit pas. Et puis il tombe malade, méningite, puis tuberculose, il est obligé de partir en sanatorium. Nous arrivons là à l'année 1949, la maman Wrzesinski, Lucrecia Selas Wrzesinski, meurt à Angers, Et c'est un père Joseph, abbé Joseph Wrzeszynski, jeune prêtre, qui va à l'enterrement de sa mère, mais sur une civière, parce que il est encore dans un état de santé pitoyable, et il ne peut pas assister à l'enterrement debout, mais sur une civière. Et donc, à l'issue de cet enterrement, il rentre dans à l'hôpital, il va au Sana, et là, il a environ une petite année de convalescence, voilà. Surtout qu'à l'époque, la tuberculose est encore une maladie extrêmement grave, c'est toujours une maladie grave, mais c'est une maladie qu'on soigne sans problème. À l'époque, c'est une maladie vraiment grave et qu'on soigne avec difficulté. Et donc, au sortir de ce sanatorium, après avoir fait un voyage à Rome, puis en Sicile, où là encore il va dans les mines de sel, et où il s'acoquine avec un ouvrier qui était communiste, si bien qu'un jour où Joseph fait escale, bien après, 15 ans après, lorsqu'il fait escale dans un aéroport, il s'aperçoit qu'en fait il est recherché par la police. Il n'a aucun ennui à ce moment-là, parce que voilà, les choses sont passées, mais il s'aperçoit que son nom est fiché et que c'est en raison de s'être lié d'amitié avec un militant qui était communiste. Et à l'époque, voilà, il y avait des difficultés avec les communistes en Italie. Donc, mais tout ça pour dire que on sent un abbé Joseph, à l'époque, un père Joseph, jeune prêtre, soucieux de connaître, de découvrir, et puis de rentrer en relation avec des gens qui veulent changer la société, veulent changer le monde. Pas du tout le curé qui s'installe dans sa cure, et puis qui attend que les jours passent, et puis qu'il bénisse ses paroissiens, et il attend que le royaume de Dieu l'accueille dans son ciel quand il mourra. Non, non, Joseph est un homme d'action et il cherche à mieux comprendre, il cherche... mais mieux comprendre quoi ? Il ne sait pas. Il ne sait pas. C'est un chercheur. Il sent qu'il y a quelque chose. Il ne faut pas du tout imaginer un Joseph qui a dans la tête quelque chose. Voilà, non, il ne sait pas. Alors... son évêque, à son retour de Sana, puis de ce voyage en Italie, son évêque lui dit, bon ben écoute, voilà, j'ai une paroisse qui sans toi n'aura pas de prêtre, donc parce que je n'ai pas ce que tu désires, Père Joseph avait dit à l'évêque, écoutez, j'aimerais une paroisse où vraiment il y a des gens très très pauvres. L'évêque lui dit, ben écoute, je n'ai pas ce que tu veux. Mais il y a une paroisse, là en tout cas, où si tu n'y vas pas, eh ben ils n'auront pas de prêtre. C'est une toute petite paroisse, Duisel, il y a 7 clochers, environ 1000 personnes, ce qui n'est pas beaucoup, hein, c'est vraiment une petite paroisse. Et là, Joseph y va et devient le curé de cette paroisse. Là encore, il essaie de chercher les plus pauvres. Et un jour, il y a une communion solennelle, comme on appelait à l'époque, on appelle aujourd'hui profession de foi, donc les enfants de 10, 12, 14 ans qui font une profession de foi, qu'on appelait à l'époque communion solennelle, et là, Joseph, le père Joseph, invite l'évêque. Et l'évêque se déplace, et le père Joseph dit à l'évêque, « Eh bien, je vous ai fait inviter à midi chez des paroissiens, mais contrairement à ce qui se fait dans ces cas-là, c'est-à-dire faire venir l'évêque chez un des paroissiens aisés, pas forcément fortunés, mais en tout cas aisés, voilà qu'il fait venir l'évêque chez des ouvriers agricoles. Bon, là, on se trouve tout à fait dans l'esprit du père Joseph, c'est-à-dire il y a à la fois un côté provocateur, et puis aussi de situer les choses à leur véritable importance. Finalement, ce qui est important, c'est que l'évêque, il aille voir les ouvriers agricoles qui n'iront jamais chez l'évêque, tandis que les paroissiens les plus aisés, s'ils veulent avoir un rendez-vous avec l'évêque, il suffit qu'ils écrivent une lettre et ils auront une audience auprès de l'évêque. C'est pas très difficile. Jamais un ouvrier agricole n'osera frapper à la porte de l'évêque. Alors, il invite l'évêque chez l'ouvrier agricole. Mais vous voyez, c'est, voilà, c'est pour dire cette histoire et puis toutes les autres pour faire sentir un peu le bonhomme qu'il y a derrière, c'est-à-dire à la fois curieux, à la fois provocateur, mais à la fois, mais en même temps, touchant l'essentiel. L'essentiel. L'essentiel, c'est la place du plus pauvre. Du plus pauvre tel qu'il est aujourd'hui, là où il est. La place du plus pauvre. Ben, la place du plus pauvre, c'est la place d'honneur. Donc, si j'invite l'évêque, l'évêque, il va manger avec les ouvriers agricoles. Pourquoi ? Parce que c'est la place d'honneur. Voilà. Donc, mettre le plus pauvre au centre, au cœur. Donc, nous voilà à Duisel. Les choses vont pas trop mal. Il y a quand même quelques plaintes. Il a des manières un peu curieuses de faire les crèches. Tout le monde les trouve bien, ces crèches, dans l'église. Mais les plus conservateurs et aussi les plus riches de la paroisse disent que quand même, parce qu'un jour, un jour de Noël, il met des gratte-ciel de New York, il fait gratte-ciel, et puis il met l'enfant Jésus avec des gens qui sont expulsés de New York, avec les plus pauvres de New York. Et alors, voilà que dans une paroisse qui n'était pas bien riche, hein, où il y avait beaucoup d'ouvriers agricoles pauvres, et voilà qu'il parle de la misère à New York. Ça choque un peu. On dit, mais qu'est-ce qu'a à faire New York avec Noël, à faire New York avec notre petit village de quelques centaines d'habitants. Bon, voilà. Mais on voit là tout de suite, quand même, l'intuition du Père Joseph, c'est d'ouvrir l'horizon. Hein, d'ailleurs, sa devise était « va au large ». Va au large. Voilà. C'est une manière d'être fidèle à sa devise. J'ai beau être à Duisel, avec mes 7 clochers, j'ai à peine 1000 habitants, 1000 personnes, c'est vraiment dérisoire. Oui, mais moi, je vois aussi New York, quoi. Et Jésus qui est exclu de ce monde de riches que représente New York à l'époque pour tous les Français. Donc, espèce de c'est un peu insolent par rapport à sa paroisse, mais en même temps, là encore, il touche l'essentiel, c'est-à-dire le plus pauvre, où que ce soit, à Duisel ou à New York, il est mis de côté. Et ce plus pauvre-là, c'est l'enfant dans la crèche. Et ce sera Jésus ensuite, mais c'est l'enfant dans la crèche. Donc, Duisel, et tout ça, ça s'accumule, hein, ça s'accumule par tranches, comme ça, par strates. Puis ça finit par faire une petite pile et les plaintes s'accumulent sur le bureau de l'évêque au point que l'évêque lui dit « Écoute Joseph, moi j'ai rien à te reprocher, hein. Je sais bien que tu fais bien ton travail, t'es un bon prêtre, seulement les gens se plaignent. Alors faudrait peut-être que tu pourrais aller ailleurs. » Alors là, il y a deux traditions. Il y a une tradition qui... une tradition, ça veut dire il y a une histoire, une manière de raconter l'histoire, qui nous dit que l'évêque lui dit « Ah, j'ai entendu parler d'un lieu à Noisy-le-Grand. Personne ne veut y aller, mais si tu y vas, ce serait bien. Tu y restes le temps que tu veux. Puis si ça ne marche pas là-bas, tu reviens, je te trouverai bien une paroisse. » Puis il y a une deuxième manière de raconter l'histoire, qui est de dire que Joseph a entendu parler d'un lieu à Noisy, un peu terrible, très misérable. Et alors, il aurait proposé à son évêque, « Dites, il y a un truc là-bas, vous savez, je m'y verrai bien, est-ce que je peux y aller ?» Donc, deux manières. Hein. Soit l'évêque lui dit, « Écoute Joseph, les gens se plaignent, peut-être que tu serais bien là-bas. » Au fond, c'est peut-être une chaussure pour la taille de ton pied, hein. Les pauvres que tu cherches, au fond, c'est peut-être là-bas que tu vas les trouver. Ou alors, sentant que ce n'est pas vraiment là sa place, Joseph propose à l'évêque, lui dit, « Dites, vous savez, j'ai entendu dire que là-bas, c'est peut-être quelque chose où je pourrais aller. » Et à ce moment-là, l'évêque lui dit, « Va voir. » Ma position personnelle, c'est cette seconde hypothèse. Je pense que c'est ça qui est arrivé. Mais nous ne saurons jamais. Nous saurons ça dans l'éternité quand Dieu nous révélera la vérité. Donc, voilà. Alors, en tout cas, le brave Joseph, il se retrouve à Noisy-le-Grand. Mais auparavant, avant de terminer, on va lire quelques lignes là qui permettent de bien comprendre, c'est dans Les pauvres sont l'Église, bien comprendre l'univers dans lequel il était et l'univers, aussi, l'univers intérieur. Qu'est-ce qu'il habite ? Au séminaire, je cite, hein, au séminaire, je lis, mais aussi un peu partout dans l'Église, des prêtres, à cette époque-là, hein, donc à l'époque, ça veut dire entre 1940 et 1946, au séminaire, mais aussi un peu partout dans l'Église, des prêtres parlaient de s'enfouir dans la masse. C'est un peu la référence au levain dans la pâte. Pour faire monter le pain, il faut mettre un peu de levure ou du levain, mais pas beaucoup. On en met un peu, même si la pâte où il y a beaucoup de pâte, eh bien ça va lever. Eh bien c'est ça, s'enfouir dans la masse. L'idéal de ces séminaristes et de ces prêtres était de faire partie intégrante, c'est-à-dire faire vraiment partie de l'humanité souffrante, faire partie de l'humanité souffrante, au risque de se perdre, au risque de se perdre. Autrement dit, le plus important, c'est l'humanité souffrante, et, dit le père Joseph, à l'époque, un certain nombre de prêtres, dans les séminaires et des prêtres, avaient la volonté de s'unir à la population la plus pauvre, même s'ils devaient se perdre. Cela m'a beaucoup inspiré, continue le père Joseph. Cela m'a beaucoup inspiré. Qu'est-ce qui a inspiré le père Joseph ? Ben, s'enfouir. Et on verra ça la prochaine fois, mais lorsque le père Joseph entre à Noisy-le-Grand, la première chose qu'il ressent, c'est « il faut que je m'enfouisse ». Autrement dit, il faut que je prenne du temps. Il y a deux réactions face à la misère collective. C'est soit de pallier à l'urgence par des actions d'urgence, soit s'asseoir et se dire « qu'est-ce qu'on va faire ensemble ?» Et le père Joseph choisit la deuxième solution. Si on veut faire une comparaison, qui n'est pas une comparaison, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, mais si on veut faire une comparaison entre l'abbé Pierre et le père Joseph, c'est exactement ça. Il y en a un qui, face à la misère collective, dit « je vais à RTL, Radio Luxembourg, je fais un appel, 31 janvier 1954, l'appel de la bonté, l'insurrection de la bonté, on disait ça en 54, et c'est la France entière qui met dans la rue des matelas, des couvertures, et les camions d'Emmaüs passent pour chercher tout ça pour secourir les pauvres gens. Et l'abbé Pierre, évidemment, avait raison de faire cela. C'était la chose qu'il fallait faire. Et le père Joseph, lorsqu'il rentre à Noisy-le-Grand, mais on le verra plus précisément la prochaine fois, lorsqu'il rentre à Noisy-le-Grand, il est effrayé par ce qu'il voit, par cette misère. Donc, quotidiennement, il se bat avec les gens. Il se bagarre pas, mais il se bagarre avec la misère. Et parfois, d'ailleurs, il est obligé d'en venir aux mains tellement la misère est forte. Mais en même temps, il s'assied et il dit « mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ?» Parce qu'au fond, si je vous donne un sandwich, ben faut en donner un encore demain, et faut en donner encore dans un an, et puis faut en donner le même sandwich encore dans 10 ans. On n'en sort pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire ensemble ? Et il y a deux mentalités. Un père Joseph qui n'en est pas moins homme d'action, mais aussi qui essaye de réfléchir. Ça vient d'où tout ça ? Et qu'est-ce que les gens peuvent faire pour s'en sortir par eux-mêmes ? Parce qu'au fond, si je donne un sandwich, c'est moi qui, parce que j'ai de l'argent, je vais acheter le sandwich et je le donne à celui qui n'a rien. dit que la position du Père Joseph est de dire, moi j'ai pas grand chose, mais les gens ils ont énormément de choses. Ils n'ont pas d'argent. C'est zéro en argent. Mais ce sont tous des hommes, des femmes et des enfants. Et tous ensemble, peut-être qu'on peut faire une armée contre la misère. Et vaincre, détruire un jour la misère. L'idéal était de faire partie intégrante de l'humanité souffrante au risque de se perdre. Je reprends le texte. Cela m'a beaucoup inspiré. Cela m'a beaucoup inspiré. Faire partie de l'humanité souffrante. Nous vivions dans l'espérance de nous incarner. De nous incarner, c'est-à-dire de prendre chair. Mais de prendre chair où ? De prendre chair dans l'humanité souffrante. C'est exactement le mouvement de Dieu qui nous donne Jésus. Jésus qui vient dans l'humanité souffrante. Jésus n'a pas été fils d'Hérode, fils de l'empereur romain. Il n'a pas été le fils d'un prêtre sadducéen, d'un prêtre du temple. Il a été fils de Marie et de Joseph, né dans une étable, déposé dans une mangeoire. Donc cela m'a beaucoup inspiré. Nous vivions dans l'espérance de nous incarner. Ce fut pour moi un des temps les plus forts de ma vie dans l'Église. Mon sacerdoce, je continue de lire, a commencé dans une ambiance extraordinaire. Nous voulions être présents au peuple des souffrants. Au peuple des souffrants. Pas seulement être présent à Madame un tel, Monsieur un tel ou tel petit gamin, mais au peuple des souffrants. C'est-à-dire il y a ce sentiment que c'est un grand peuple, un peuple immense. Et donc être présent à ce peuple des souffrants, on a déjà là l'intuition d'une misère collective. Et c'est une intuition que le Père Joseph puise dans son expérience dans l'Église. Il y a là un moment historique, dans les années 50, où en effet, entre la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale et puis les années 60, tout un climat dans l'Église où beaucoup de chrétiens et de prêtres veulent communier à la souffrance des gens qui souffrent le plus. Nous voulions être présents au peuple des souffrants. Quand j'ai demandé à mon évêque d'entrer à la mission de France, parce qu'il est entré à la mission de France peu avant, voilà, j'ai passé des étapes, d'entrer à la mission de France où il a passé une petite année, ce n'était pas pour y mener une activité militante, mais pour être communiant à une population pauvre. Oui, une activité militante, ça veut dire ta-ta-tam, réunion à telle heure, réunion une heure après, réunion une autre. À la fin, je me couche, j'ai fait 10 réunions dans la journée, j'ai vu 300 personnes, et demain, je fais encore plus. Voilà, ça, c'est le travail d'un militant. Un militant, militant, ça veut dire combattant, guerrier, militaire. Militant et militaire, c'est le même mot. Donc, nous voulions être présents. Quand j'étais à la mission de France, c'était pas pour être militant, une activité militante. Activité militante, tout à fait louable, honorable et nécessaire. Attention. Pour le coup, si le Père Joseph, s'il y a quelqu'un qui a été militant, c'est bien le Père Joseph. Mais pas pour une activité militante, mais pour être communiant à une population pauvre. Communiant à une population pauvre. Faire la jonction entre le plus pauvre et Jésus-Christ. Ils ne font qu'un. Communiant à une population pauvre. On sent bien avec le mot communiant combien il y a quelque chose d'eucharistique derrière. C'est presque que cette communion à la population pauvre est presque de l'ordre de communier au corps et au sang du Christ. C'est pas la même chose, mais c'est de cet ordre-là. En tout cas, c'est à cette profondeur-là qu'on a à comprendre cette communion à une population pauvre. Notre désir, à la plupart des prêtres, des séminaristes de cette époque, notre désir était de nous enfouir en cette population pauvre pour retrouver la réalité même de l'Église. Nous voulions aller à la recherche de la brebis égarée, au risque de perdre les autres. Ben, évidemment, vous vous rappelez cette parabole de la brebis perdue, c'est au début du chapitre 15 de l'Évangile de Luc. Il y a un berger, il y a une brebis qui est perdue. Il a 99 brebis dans l'enclos, il y a une brebis qui est perdue. Et le berger va chercher la brebis perdue. Mais les 99 autres, qu'est-ce qu'il les garde? On ne nous dit pas qu'il a un adjoint, on ne nous dit pas qu'il y a laissé des chiens, on ne nous dit rien. Il laisse 99 brebis pour aller chercher une brebis. Est-ce qu'il vaut mieux pas perdre une brebis et puis garder les 99? La question se pose. Et si le loup arrive et qu'il en mange 40, alors on aura perdu 40 brebis pour aller sauver une brebis? Oui, mais la parabole de Jésus ne vise pas ce genre de calcul. Il dit, la brebis perdue, elle devient le centre. Il n'y a plus rien d'autre qui compte. Il n'y a plus que cette brebis-là. Et donc, le plus pauvre au centre. C'est exactement ça. Nous voulions aller à la recherche de la brebis égarée, au risque de perdre les autres. Nous voulions descendre toujours plus bas dans l'humanité souffrante. Oui. Descendre, ben, on descend, je vais descendre au rez-de-chaussée. Non, toujours plus bas, jusque dans la cave. Et si possible, en dessous de la cave. Toujours plus bas. C'est la dimension du plus pauvre, c'est-à-dire celui qui est encore plus pauvre que celui que je connais. Toujours plus bas dans l'humanité souffrante. Sachant qu'ainsi, nous retrouverions l'Église dans toute sa vérité et sa splendeur. Nous voulions vivre notre sacerdoce au cœur même de l'Église des pauvres. Donc vous voyez, la lecture que fait le Père Joseph de ses premières années de sacerdoce, vous voyez, et puis de vie au séminaire, entre 1940 jusqu'à ses premières années de paroisse, grosso modo 1940 jusqu'à 1960, il est entré à Noisy-le-Grand en 1956, mais voilà, vous avez là une vingtaine d'années où Père Joseph dit, mais dans l'Église, il y avait cette volonté d'être communiant au peuple des pauvres. Et non seulement communiant au peuple des pauvres, mais communiant à ceux qui sont au plus bas de la société. Et il nous faut aller les rejoindre. Je termine juste la fin, puis on arrêtera là. Plonger au plus bas. Oui, plonger. Vous voyez, le verbe, c'est pas y aller les mains dans les poches tranquillement, et puis voilà, c'est plonger. Celui qui plonge, il est dans le vide. Il plonge, il ne sait pas où il va atterrir, il plonge. Plonger au plus bas, pour aimer l'Église, non pas à travers, mais dans les plus pauvres. Pour aimer l'Église dans les plus pauvres. Reconnaître dans les plus pauvres l'Église. Pour ça que du coup, son livre s'appelle « Les pauvres sont l'Église ». Les pauvres sont l'Église. Plonger au plus bas pour aimer l'Église, dans les plus pauvres, c'est certainement la vocation de ces prêtres-là. De là, leur angoisse d'atteindre les OS, les ouvriers spécialisés, mais les OS, c'est ceux qui étaient au plus bas de l'échelle des ouvriers. Leur angoisse d'atteindre les OS, les migrants, les victimes des pires exploitations. Non pas pour s'y arrêter. Alors, je vais voir ceux qui sont victimes des exploitations. Puis une fois que je suis avec eux, ben ça y est, je suis tranquille, je les ai trouvés. Non, non pas pour s'y arrêter. Mais toujours chemin faisant, sans cesse en marche. Autrement dit, voilà, j'arrive là, j'ai trouvé des migrants ou des OS, des ouvriers sans qualification, des gens très pauvres. Je m'installe avec eux, je communie à leur misère, et puis ensemble, on essaie de s'en sortir. Non, sans cesse chemin faisant, pour trouver plus pauvres encore. Donc on retrouvera ça dans les fois suivantes, mais c'est quelque chose de fondamental dans la pensée du Père Joseph, c'est atteindre des gens que nous ne connaissons pas encore. Et pour ça, plonger. Allez, plonger. Il est du rôle, dernier paragraphe, il est du rôle de l'Église de faire prendre conscience de l'injustice. Mais il est de son rôle de le faire dans l'inquiétude incessante d'aller vers de plus pauvres encore. Pas seulement dire « il y a des injustices dans ce monde », mais de dire « Il faut les faire plus pauvres encore que ceux qu'on connaît. Il est de son rôle de le faire dans l'inquiétude incessante, l'inquiétude qui ne cesse pas d'aller vers de plus pauvres encore, vers ceux qui demeurent intouchés, que personne n'a encore touché. Intouchés, comme inaccessibles en raison de leur trop grande misère. Ils sont tellement misérables qu'ils sont hors d'atteinte. On ne peut pas les atteindre. Ils sont derrière la montagne. Derrière la montagne. Et la montagne nous les cache. L'Église sait qu'il existe toujours des plus pauvres dans lesquels s'incarne Jésus-Christ. Ça, c'est très fort, cette phrase. Dans lesquels s'incarne Jésus-Christ. C'est-à-dire que le Père Joseph affirme que Jésus s'incarne dans les plus pauvres. Il s'incarne, il prend chair. L'évangile de Jean, au premier chapitre, c'est le prologue de l'évangile de Jean. Jean nous dit « Dieu s'est fait chair ». Et chair, ça ne veut pas dire « il s'est fait viande, il s'est fait corps ». Ça veut dire « il s'est fait faiblesse ». La chair, dans le Premier Testament, l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, signifie la faiblesse, la vulnérabilité, la fragilité. Donc, l'Église sait qu'il existe toujours des plus pauvres dans lesquels s'incarne Jésus-Christ. Jésus-Christ qui s'incarne dans la faiblesse, mais pas seulement dans la faiblesse parce que nous sommes tous faibles, au fond, on est tous un jour ou l'autre malades, de toute façon on mourra tous, on est tous nés fragiles, et puis on supporte tous plus ou moins mal, plus ou moins bien, le chaud, le froid, la fatigue, l'âge qui avance, etc. On est tous pareils. Mais là, c'est pas... Dieu ne s'incarne pas dans notre faiblesse, la faiblesse humaine générale, il s'incarne dans la faiblesse du plus pauvre, du plus pauvre. L'Église sait qu'il existe toujours des plus pauvres dans lesquels s'incarne Jésus-Christ, qu'elle ne peut avoir, l'Église sait qu'elle ne peut avoir de repos avant de les avoir rejoints. C'est exactement ce que dit aujourd'hui le pape François lorsqu'il dit « Vous ne pouvez pas rester sur la rive. » Alors, il dit, voilà ce que dit le pape François. Il dit, il pose la question avec un point d'interrogation à la fin. Il dit, est-ce que vous êtes devant l'océan, un large océan, ou est-ce que vous êtes dans une lagune, un petit étang, un petit lac, artificiel ? Artificiel, c'est-à-dire que vous avez fabriqué. Voilà, vous voyez, on fait ici un petit lac, puis on se met là, comme ça on est devant l'océan. Oui, mais non, on l'a fabriqué. Ou est-ce que vous êtes devant l'océan, prêt à partir ? Et peut-être êtes-vous déjà embarqué. Donc, et on rejoint exactement le « va au large », devise du Père Joseph, mais qui est la phrase que Jésus disait à Simon lorsqu'il revient de la pêche où il n'a rien pêché. Et « Oh, t'as rien pêché ? Ben écoute, va au large. » Ça va pas, Jésus, non. Si, si, va au large. Bon, ben, écoute, puisque tu me le dis, j'y vais. Et puis, il y a une pêche miraculeuse. Donc, l'Église sait qu'il existe toujours des plus pauvres dans lesquels s'incarne Jésus-Christ. Et l'Église sait qu'elle ne peut avoir de repos avant de les avoir rejoints. Étant condamnée, c'est l'Église qui est condamnée, étant condamnée à aller toujours plus loin, plus bas. Toujours plus loin, plus bas. Donc, ce texte, évidemment, mérite d'être médité. On est là vraiment dans un des cœurs de la pensée du Père Joseph, et où le Père Joseph nous montre que il a cette intuition, il l'a puisée dans l'Église. C'est pas un Père Joseph qui, un soir, sur la table de sa cuisine, se dit « Bon, alors, voilà, c'est ça, ça, le plus pauvre. » Non, ça sort pas de sa tête. Ça sort d'une expérience qu'il a dans l'Église. Une expérience de l'Évangile vécue dans l'Église, mais il saisit ça au bon et il va le mettre en œuvre. Il va le mettre en œuvre. Et il y a un certain nombre d'autres personnes qui les ont mis en œuvre, chacun à leur manière. Père Joseph va le mettre en œuvre à sa manière, mais le Père Joseph est un des hommes et femmes, un des hommes, en l'occurrence pour lui, qui ont mis en œuvre cette intuition de l'Église d'aller vers le plus pauvre. L'Église, depuis ses origines, elle a toujours voulu aller vers le plus pauvre. Mais sans cesse, elle est revenue en arrière. C'est-à-dire qu'elle s'est toujours risquée dans l'inconnu, et puis ensuite elle est revenue dans le confort. Et c'est le va-et-vient de l'Église, c'est-à-dire d'aller dans l'inconnu, et puis hop, on revient dans le confort. Et aujourd'hui, ce que dit le pape François, c'est de dire, écoutez, quittez votre confort et allez vers l'inconnu. L'inconnu, c'est où ? Je n'en sais rien, dit le pape François, puisque c'est justement l'inconnu. Mais allez vers l'inconnu, ou bien ce qu'il appelle encore les périphéries. C'est-à-dire ce qui est... La périphérie, c'est ce qui n'est pas au centre. Vous avez une ville, puis il y a les périphéries. Donc on reste bien tranquillement dans la ville, et François, comme le père Joseph, comme l'Église, dit, mais c'est dehors qu'il faut aller. Jusque j'ai y compris, restez pas dans votre église, mais allez dehors. Allez dehors pour quoi faire ? Pas forcément pour amener les gens à l'intérieur, mais simplement pour être présent à l'humanité souffrante. Et parce que vous êtes présent à l'humanité souffrante, vous serez présent à Jésus-Christ, et Jésus-Christ, alors, vous le rencontrerez pas à l'intérieur de l'église, mais à l'extérieur de l'église. Et là, c'est une autre manière de rejoindre l'église. Mais à l'extérieur. C'est un peu contradictoire apparemment, mais en fait c'est très très fondamental, en tout cas pour le père Joseph. Voilà. Vas-y, tu t'arrêtes là de toute façon.
Ça peut penser à quelque chose, parce que quand j'ai habité rue Jean Frappier, avant d'habiter la rue Mardessin, puis j'habite la rue parallèle, un jour j'ai fait part, on avait fait une journée de porte ouverte, sur les bachelets, il y avait tous les
émotions. Oui.
On était désireux, enfin quelques personnes étaient désireuses de pouvoir faire ce qu'on vivait dans ce quartier, le porter à la paroisse des otages, ça faisait partie des otages, et inversement, comme ça il y aurait eu un échange,
oui,
quelque part. Et on en a parlé pendant au moins 15 jours, pratiquement tous les jours, oui. Quand j'en parlais, j'allais à la messe à 8 heures.
Oui.
Il n'y avait qu'une religieuse qui venait.
Ah oui. Ah oui.
Ah ouais. Et ça fait penser à ça, à l'évêque.
Ah. Ah, voilà.
Il y avait vraiment, à ce moment-là, j'étais en colère. J'étais en colère parce que les gens de ces immeubles demandaient une chose, c'est qu'il y ait un partage, qu'il y ait vraiment un échange. Nous, on fait ça, mais en compensation, nous, on fait ça, on peut vous apporter ça, vous, en compensation, vous pouvez nous apporter ça.
Ouais,
et ça ne s'est jamais fait. Je repense à ça, ça ne s'est jamais fait.
Mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une exigence, mais
qui n'est pas simple. Parce qu'en fait, c'est qu'on habite, on aurait pu en périphérie.
Oui.
Et moi, j'ai toujours vanté le quartier parce que c'est pas parce que... Je disais toujours, c'est pas parce qu'il y a des gens pauvres dans un quartier qu'il faut les ignorer. Pour moi, c'était... d'une bonne claque que ces gens recevaient, y compris moi, parce que j'habitais ce quartier-là. C'était comme ça, moi j'avais l'impression qu'on recevait des claques. C'est l'impression que ça me donnait. Et je faisais partie du conseil pastoral.
Ah oui.
Par-dessus marché, j'en ai parlé au conseil pastoral. Et personne du conseil pastoral ne s'est dérangé. C'était quand même... Pour moi, c'était grave ce qui arrivait là.
C'était quoi exactement ? J'ai pas très bien compris ce partage.
Parce que dans mon quartier, tous les ans, on faisait quelque chose.